France Inter. Inter.
Vous écoutez effectivement France Inter, nous sommes le mercredi 27 août, il est 5h.
Le 5-7, Mathilde Munot.
Bonjour, quelles sont les nouveautés cette année à l'école, les dernières réformes de la maternelle au lycée? La ministre de l'Éducation fait sa rentrée avec une conférence de presse. Elisabeth Borne, qui ne sera peut-être plus là dans 2 semaines vu la crise politique. Jérôme Fournier du syndicat des enseignants UNSA est notre invité à 6h20. L'autre invité du 5-7, c'est celui qui est déjà debout à 5h45. Aujourd'hui, c'est un navigateur. Il vit sur un catamaran en Méditerranée. Au sommaire également, des salariés qui rachètent leur propre usine. C'est une scierie en Lozère et c'est la chronique Regarde la France à 6h15. Dans notre nouvelle chronique environnementale Debout la Terre à 6h45, la cohabitation difficile entre les avions de l'armée française et les vautours dans les gorges du Tarn. Le mercredi, c'est le jour de la bande dessinée dans le 5-7, toujours avec Laetitia Gaillet et toujours avant le journal de 6h. Et côté musique, Lola Young viendra pimenter le 5-7 et je vous propose aussi L'Homme en Noir, Johnny Cash. Bon réveil à tous. Le journal Victor Costa-Mounier, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Et on commence par le service après-vente de François Bayrou.
Après son annonce surprise lundi de se soumettre à un vote de confiance de l'Assemblée nationale, rendez-vous le 8 septembre prochain, le Premier ministre s'exprimait hier à l'université d'été de la CFDT. Réfléchissez, ne cédez pas à des réflexes spontanés, a-t-il lancé aux oppositions. Clin d'œil surtout aux socialistes, les plus à même de négocier. Mais un vote négatif semble désormais quasi certain et lance les spéculations pour l'après. Pourquoi pas une nouvelle dissolution? Hypothèse évoquée hier matin par Gérald Darmanin et on y pense aussi Marie Mollet à l'Élysée.
Il y a 10 jours, interview présidentielle dans Paris Match. Emmanuel Macron est alors catégorique. Non, il n'est pas tenté par une nouvelle dissolution. Je l'ai déjà faite, je m'en suis expliqué. Le Parlement, disait-il, reflète les fractures du pays. C'est aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. Expression claire, porte fermée, mais depuis, tout a changé. Le 8 septembre, tout indique que le Premier ministre sera renversé, sauf surprise. Les oppositions parlent déjà de l'après-Bayrou, de la démission d'Emmanuel Macron, dit Jean-Luc Mélenchon. Le président se retrouve seul, sans paravent ni fusible. Alors hier, l'Élysée change sa version. La dissolution, il ne la souhaite pas. Et en même temps, c'est un pouvoir constitutionnel, assure un conseiller. Retour à l'ambiguïté, façon de retrouver une cartouche institutionnelle et de l'air, mettre les députés de l'opposition sous pression, le PS notamment. En clair, il faudra bien, tôt ou tard, négocier sur le budget avec ce gouvernement ou le prochain. Sinon, tout le monde repart en campagne.
Marie Mollet, service politique de France Inter, de potentiel législatif déjà dans les têtes au Rassemblement National. Le parti va réunir son bureau de campagne le 1er septembre prochain. À gauche, le chef des députés socialistes Boris Vallaud prévient qu'un accord programmatique avec la France Insoumise n'est pas concevable. La question se posera circonscription par circonscription.
Avant un possible retour aux urnes, une partie des Français veut descendre dans la rue le 10 septembre.
Bloquons tout, mouvement citoyen né sur les réseaux sociaux continue de se préparer à Montpellier par exemple. Ils étaient environ 200 hier soir sur les marches du Palais des Congrès de la ville. 2 heures d'assemblée générale pour convenir des actions. Blocage dès 6 heures du matin, manifestation à 11 heures dans le centre-ville et nouvelle assemblée générale en fin de journée. Alors parmi ces Montpelliérains mobilisés, des représentants syndicaux, des citoyens lambda qui veulent que les choses changent, mais aussi d'anciens gilets jaunes comme Daniel, figure du mouvement, qui continue de manifester chaque mardi sur un rond-point au sud de la ville.
Les premières réunions qu'on a mis en place portent leurs fruits puisqu'on a commencé à 20 personnes et chaque réunion on a doublé et donc là on a plus que triplé, on était pas loin de 250. Pour moi c'est excellent parce que le but c'est que tout le monde se retrouve dans un mouvement unique contre les injustices sociales, donc ça c'est le cheval de bataille quand même des gilets jaunes. Et le budget Bayrou en est franchement l'exemple typique, avec une attention portée, je dirais, aux travailleurs, sous c'est eux qui vont encore payer l'addition d'une dette dont on doit rappeler qu'elle n'est pas de notre fait, mais qu'elle est héritée de 3 décennies au moins de gouvernements qui ont pris des décisions à notre place et qui ont engagé cette dette.
Propos recueillis par Claire Moutarde, ici Héros, ex-France Bleu. Donald Trump présidera aujourd'hui une grande réunion sur Gaza à la Maison-Blanche, annonce de son émissaire Steve Witkoff cette nuit. Réunion durant laquelle l'administration Trump doit élaborer un plan très complet sur le jour d'après dans le territoire palestinien, a précisé Steve Witkoff. Alors que des dizaines de milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées dans les rues de Tel Aviv hier soir pour demander la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages israéliens retenus dans l'enclave par le Hamas. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, visé par une plainte pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, plainte de la CGT des agents territoriaux de la ville, ce après des malaises et des syncopes lors de l'épisode de forte chaleur à la fin du mois de juin. Le syndicat assure avoir constaté plusieurs manquements et des directions de service qui n'avaient mis en place aucune mesure. Du Cantal au Jura, 9 départements du centre-est sont en vigilance orange aux orages ce mercredi. Sur l'Atlantique, le phénomène de houle cyclonique, lui, doit se poursuivre jusqu'à vendredi. Hier, les drapeaux rouges ont été dressés sur de nombreuses plages. 4 baigneurs ont été secourus en Vendée. Vol test réussi pour la méga-fusée d'Elon Musk après 3 vols d'essai ratés, marqués à chaque fois par des explosions. Starship s'est enfin élancé cette nuit. La fusée a réussi à déployer les simulateurs de satellites qu'elle transportait. C'est une première. Elle a amerri dans l'océan Indien 1 heure après son décollage.
Une pluie de défaites chez les Français à l'US Open de tennis.
Gaël Monfils en 5-7 cette nuit, mais aussi Hugo Gaston, Giovanni Empecci-Pericard ou encore Alexandre Muller. Chez les dames, défaite aussi pour la numéro 1 française Loïse Boisson. Après sa demi-finale à Roland-Garros, la Dijonnaise, pour son 2e tournoi majeur, s'est fait sortir dès le 1er tour, battue par la Suissesse Victoria Golubic, 72e mondiale en 3-7. Loïse Boisson n'a pas confirmé à New York les espoirs placés en elle après son fabuleux parcours à Roland-Garros. Mais l'essentiel n'est pas là, Fabrice Abgral, pour celle qui est encore en plein apprentissage du haut niveau.
Alors évidemment, à Roland-Garros, elle évolue à domicile, portée par le public et sur terre battue, là où son tennis s'exprime le mieux. Tellement bien que Loïse Boisson a confirmé dans la foulée en remportant sur cette surface à Hambourg le premier titre de sa carrière. La Dijonnaise a maintenant gagné le droit de s'aventurer dans le grand monde, loin des tournois de deuxième catégorie qu'elle maîtrisait parfaitement. Elle est passée en 3 mois de la 361e à la 47e place mondiale. À elle maintenant de s'adapter au plus haut niveau, d'accepter et d'assumer son nouveau statut. Loïse Boisson est désormais très attendue partout et tout le temps. La pression est plus forte, mais l'effet de surprise n'existe plus. Il est acquis aussi que Loïse Boisson est avant tout une joueuse de terre battue et que son tennis est moins efficace sur surface rapide. Pour ne rien arranger, elle n'a pas pu se préparer correctement en raison d'une douleur aux adducteurs. Avant l'US Open, elle n'avait disputé qu'un seul tournoi à Cleveland où elle a été battue au premier tour. C'est donc sans confiance et sans repère que Loïse Boisson s'est présentée à New York et dans ces conditions, les miracles n'existent pas.
Fabrice Abgral s'est passé en revanche sans trop de difficultés pour le numéro 1 mondial Yannick Yannick Sinner. Qualification pour le deuxième tour de la numéro 2 mondiale Iga Świątek également, qui a profité de sa conférence de presse d'après-match pour féliciter Taylor Swift, la superstar américaine, a annoncé sur Instagram qu'elle allait se marier avec son compagnon, le joueur de football américain Travis Kelce.
C'était le journal de Victor Costa-Mounier. Il est 5h08.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Le tonnerre gronde, Élodie Calac.
Un temps agité, encore des averses orageuses ce matin, du sud-ouest aux régions de l'est. Les orages vont devenir forts dès cet après-midi, très pluvieux avec parfois de la grêle et du vent, en particulier de l'Auvergne au Jura où une vigilance orange a été émise. En Méditerranée, des averses aussi, parfois orageuses sur le Languedoc-Roussillon. Un peu plus d'éclaircies cet après-midi, mais de nouvelles pluies orageuses s'inviteront pour la soirée et la nuit prochaine. Du nord-ouest au nord de la Seine, des nuages et des éclaircies appréciables, mais là aussi de nouvelles pluies orageuses sur la Bretagne dans l'après-midi. Comptez 12 à 17 degrés au nord ce matin, 15 à 22 au sud. Et cet après-midi, ça va baisser, souvent 20 à 26 degrés attendus, mais encore 27 à 31 de la Méditerranée au flanc est.
France Inter, le 5-7.
José-Manuel Lamarque nous rejoint dans 3 minutes pour ses chroniques littorales. Son invité est l'écrivain aventurier Patrice Franceschi pour son dernier roman à portée philosophique. L'amnésie écologique, d'où ça sort? Explication à suivre de Cyril Lacarrière. Quant à Tanguy Pastureau, il nous racontera ses vacances au camping. 5h09, la musique de la Guadeloupéenne Célia Wa vous accompagne au saut du lit avec Soldier. Soldier de la chanteuse et flûtiste Célia Wa, une chanson qui fait partie de son premier album, chanté en créole. Il s'appelle Façadé, ça veut dire faire face. 5h12, les chroniques littorales sont particulières. Le mercredi, vous nous suggérez systématiquement un livre. José-Manuel Lamarque, bonjour.
Bonjour Mathilde Munoz.
Et aujourd'hui, c'est un livre énigmatique.
Il s'agit de Dernière lutte avant l'aube, Mathilde, dont l'auteur est Patrice Franceschi, le président des écrivains de Marine. Dans ce livre, le voyage se mêle au fantastique par la quête pour une mère inconnue. inconnu. Mais sous quelle forme, Patrice Franceschi ?
C'est un conte philosophique dont le traitement est très onirique. C'est un récit très onirique sur finalement les pays où l'on n'arrive jamais quand on poursuit, et là je viens à cette idée de quête, parfois des idéaux trop élevés qui peuvent mener à l'abîme. C'est le thème philosophique de ce roman.
Vous en avez déjà dit beaucoup trop, vous savez, là.
Ah bon ?
Pourquoi je dis que c'est fantastique ? Bon, on a trois personnages. On a celui qui nous parle. Alors c'est peut-être vous d'ailleurs. Il y a sa sœur Sarah, il y a Mathilde, et Mathilde, elle, sa quête, c'est trouver la mère des mères.
C'est la mère de toutes les mères, parce que ce conte philosophique, qui est un récit fantastique et très onirique, prend sa source dans un poète grec, un poète que j'adore, Pindare, qui dans ses troisièmes ptiques dit « Ô mon âme n'aspire pas la vie éternelle, mais épuise le champ du possible ». Et ce thème...
C'est un thème qui vous est cher, parce qu'en plus, quand vous nous parlez de Pindare, Patrice Franceschi, ce n'est pas pour rien si vous avez dédié cet ouvrage à Andrea Marcolongo, qui a écrit un livre fabuleux sur la langue grecque.
Tout à fait, qui s'appelle La langue géniale. Et alors, c'est une helléniste incontournable à mes yeux, passionnante et fascinante. Et elle avait écrit un livre il y a 2 ans, qui s'appelait « Déplacer la lune de son orbite », qui était sa nuit au musée de l'Acropole. Et dans « Déplacer la lune de son orbite », il y a cette idée, soit je lui dédie le livre, de finalement être maître de notre destinée. Et être maître de sa destinée, de son destin, décider qu'il est devant nous et à portée de main, on le retrouve toujours chez les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas vivre, et c'est sans doute mon cas, sans but, sans idéaux à atteindre.
Mais attendez, il faut quand même décrypter un certain Achéron.
Ouais.
Il faut quand même trouver le Dratoun.
Achéron, c'est le point de départ de la quête de Mathilde, qui lit ce livre, écrit par un certain Achéron, qui prétend, dans son récit, avoir découvert la mère de toutes les mères de Pindare il y a 25 siècles. Il a écrit ce livre, Mathilde tombe dessus, décide de le suivre pas à pas et qu'elle elle-même trouvera la mère de toutes les mères. Depuis 40 ans, elle cherche et en fait le livre ne peut pas se lire comme ça. On ne sait pas si c'est une imposture, s'il faut le traduire, etc. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un pays qui s'appelle le Dratoun, qui porte un autre nom dans le livre, qui n'est sur aucune carte et que c'est au bout de ce pays où l'on n'arrive jamais en fin de compte, que l'on peut trouver la mère de toutes les mères, c'est-à-dire les idéaux que l'on poursuit. Et elle part. Et elle entraîne les deux jeunes enfants, de jeunes adolescents, et ils croisent, et c'est là pour moi le plus drôle de l'affaire et le texte le plus onirique sans doute, ils croisent une bande de forcenés sur un cargo.
Avec le fameux capitaine Haha. Ah,
voilà, l'homme tragique qui rit tout le temps, et son cargo et ses ruffians, qui eux-mêmes ont lu aussi Achéron, mais n'y croient pas. Et cette bande de forcenés, en fait, se prend pour des sortes de réincarnations de Jason et des Argonautes. Ce sont des fous furieux, et eux, leur quête, c'est pas la toison d'or en Colchide, eux, c'est carrément la lance de Don Quichotte pour réparer le monde.
Mais attention, parce que là, vous allez tellement vite. Tous ces personnages ne sont pas dans les mêmes lieux géographiques. On parle des Moluques.
Parce que les directions d'où ils viennent tous, le moment où ils se croisent vers ces mers glacées, où le cargo les emporte, et les pays vers lesquels ils vont et qu'ils n'atteindront jamais, puisqu'ils n'existent pas, ils ne sont portés sur aucune carte. Là, on est dans le texte le plus onirique, le plus fantastique, et dans la philosophie pure pour moi, qui est dès la première ligne en fait, de la quatrième de couverture, et qui est « Toute course en avant vers des buts trop élevés mène à l'abîme ». Et la crainte du conte philosophique qui traverse tout.
Un conte philosophique marin, il faut le dire.
Oui, qui est très marin, parce que il est marin et terrestre après, puisque les étendues glacées dans lesquelles ils vont chercher la mer de toutes les mers sont une congélation complète des idéaux à atteindre. Et je ne dis pas la fin, la brutale fin de tout ça quand même. Il y a un suspense jusqu'au bout.
Mais ce n'est pas votre dernière lutte avant l'aube.
Il y a toujours une dernière lutte. Dernière lutte avant l'aube, et on peut tout y mettre.
Donc, pluriel et singulier.
Absolument.
Merci à vous, Patrice Franceschi. Dernière lutte avant l'aube est édité chez Grasset. À demain, Mathilde Minos.
Bonne journée, José-Manuel Lamarque.
Le 5-7 sur France Inter.
Il est 5h16 à cette heure-ci. Je vous donne les grands titres de la presse nationale. Et ce matin, comme hier, les journaux nagent dans le même couloir. Ils reviennent sur le vote de confiance sollicité par François Bayrou et son probable départ de Matignon. La France replonge dans l'incertitude politique, nous dit La Croix. Quel Premier ministre quid d'une dissolution pour Emmanuel Macron? C'est retour à la case départ et c'est la même formule dans Libération et l'Humanité. Mais ce qui intéresse vraiment les quotidiens ce matin, ce sont surtout les conséquences économique de cette crise, le spectre de la crise financière, comme l'écrit le Figaro. D'après l'Opinion, on peut difficilement faire pire. La bourse est secouée, les porteurs d'emprunt s'inquiètent, le coût de la dette s'emballe, les intentions d'embauche reculent et les investissements publics risquent de se figer. Résultat pour les entreprises, c'est une rentrée sans dessus-dessous. Même chose dans le Parisien aujourd'hui en France. Les patrons sont déboussolés et le MEDEF ne voit pas de plan B, regrette les Échos. À propos d'économie, toujours, vous lirez progrès dans l'humanité, que les banques désertent les campagnes, la fermeture des agences bancaires et des distributeurs automatiques de billets se poursuit partout en France. 5000 agences de moins en 10 ans pour les distributeurs. Rien que l'année dernière, 1500 ont disparu. C'est la conséquence directe de la généralisation du paiement électronique. D'où cette question dans les Échos. Le cash est-il une espèce en voie de disparition ? Une certitude, les pourboires se font de plus en plus rares au restaurant. Ça, c'est ce que note le Figaro, qui en profite pour nous raconter d'où vient le mot pourboire. La première trace se trouve dans l'École des femmes de Molière, 1662. Sommes-nous tous amnésiques lorsqu'il s'agit d'environnement et de climat ? Nous finissons par nous habituer aux températures très élevées en été, comme si c'était la norme. On oublie les étés d'autrefois. C'est à ce sujet que s'est intéressé Mathieu Noël hier dans son émission Zoom Zoom Zen, un sujet choisi par son rédacteur en chef, Cyril Lacarrière. Alors racontez-nous, Cyril, l'amnésie écologique, d'où ça sort ?
Imaginez, un pêcheur breton dans les années 50, quand il sort en mer, il ramène des bancs de sardines immenses.
On y est, Cyril.
On y est là, je les vois les sardines.
20 ans plus tard, son fils en prend déjà beaucoup moins et son petit-fils aujourd'hui en ramène 10 fois moins encore. Mais lui, le petit-fils, il trouve ça normal. Eh bien c'est ça l'amnésie écologique, en anglais le shifting baseline. Chaque génération prend pour référence l'état du monde tel qu'elle l'a connu quand elle était enfant et elle oublie que le monde existait bien avant. Résultat, la dégradation globale du monde se fait par petites marches successives. Presque invisible. Ce concept, on le doit à Daniel Pauly, qui le forge en 1995. C'est un biologiste canadien spécialiste des pêches. Pauly a démontré que même les scientifiques se faisaient piéger. Il comparait les stocks de poissons à ceux des décennies précédentes, mais pas à ce qu'il y avait un siècle plus tôt. Résultat, les pertes paraissaient moins graves qu'elles ne l'étaient réellement.
Un autre exemple, Cyril ?
Nos grands-parents voyaient des champs remplis de papillons. Nos parents se souviennent de leur pare-brise, qui faisait office de cimetière à moustiques l'été. Nous, on s'émerveille quand on voit une simple coccinelle et nos enfants trouveront, eux, normal de ne plus rien voir du tout. Vous avez compris le piège. Chaque génération s'habitue à des disparitions jusqu'à oublier ce qu'il y avait avant. Et à la fin, on finit par trouver ça normal. D'où ça sort l'amnésie écologique ? Et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Cyril Lacarrière, tous les jours aux côtés de Mathieu Noël dans Zoom Zoom Zen à 16h cet après-midi. Ils zoomeront sur la mexicanisation. Quelle est l'ampleur du narco-banditisme en France ? Tanguy Pastureau arrive dans 3 minutes pour nous résumer ses vacances. Pour le moment, c'est The Divine Comedy qui passe dans le manche-disque du 5-7. Le groupe de Britpop sort un 13e album le mois prochain. Et en voici un extrait, Achilles.
I saw a man this morning, standing on a foreign shore. From his eyes tears were falling as he made ready for war. He shouted out a warning, you slew my sweetest friend. And as sure as day is dawning, his death will be avenged. Was it so hard to die, Achilles? So very hard to die. You know and I know not, Achilles, so much the happier I. You breached the walls of Troy, Achilles, slaughtered a thousand men. Patroclus is destroyed, Achilles, and can't come back again. I saw a man this morning, trudging through a muddy field. From the sky a shell was falling, with his name scratched in the steel. Lend him your shield, Achilles, ask the gods to be his guide. All he has is a Shropshire lad. With
if this poem scrawled inside. Was it so hard to die, Achilles, so very hard to die? You know and I know not, Achilles, so much the happier I. Look to the starry sky, Achilles, look to the silver sea.
Achilles, la musique de The Divine Comedy venue tout droit d'Irlande du Nord. Rendez-vous le 19 septembre pour découvrir leur nouvel album.
France Inter.
5h24, Tanguy Pastureau a fait sa rentrée hier sur France Inter dans la bande originale de Nagui et Leïla Kaddour.
Bon ben voilà, ça a fini par se faire. Première chronique de la saison, plus que 279 avant les vacances d'été. J'ai hâte parce que je suis vite claqué, rien que le fait de me lever le matin, j'ai besoin de récupérer, donc je me recouche. Il faudrait que je trouve un métier où on passe la journée à l'horizontale. Il n'y en a pas. À part au PS qui se couche devant Mélenchon, je vois pas. Peut-être le porno, mais à mon âge. Hein, je sais que la mode est au format court, mais enfin quand même. Bref, mon bilan de l'été, sympa. Mais j'ai fait une erreur, je suis parti en France en me disant ça va être moins cher qu'à l'étranger. Alors non, hein, en fait tous les prix ont été indexés sur le PIB de Dubaï avant le Covid. L'autoroute, vous faites 30 km, faut ouvrir une cagnotte litchi. Un soir, j'ai pris une pizza, une calzone, c'est une pizza repliée sur elle-même. Au départ, je pensais que c'était de la timidité. Je lui disais à la pizza, ça va, détends-toi, c'est l'été. J'essayais de la mettre à l'aise. Mais le prix de la calzone cet été, je me suis dit là-dedans, je vais trouver de l'or, un bracelet Cartier, ça se trouve au bout du bracelet, je vais trouver Rachida Dati ou une autre bourgeoise un peu pet sec. Je sais que c'est improbable que Rachida Dati soit dans une calzone. Ouais. Mais après 5 verres de rosé, tout s'envisage. C'est cette ébriété qui fait qu'à la fin du repas, on accepte de payer la note parce qu'on est euphorique, on se dit allez, on n'a qu'une vie, on verra demain. Hein, on propose des plans sexes à sa cousine en se disant on est en août, on n'est pas en août. Mais vous tournez à l'eau des viands, la même addition, mais vous foutez le feu à l'établissement. Le pire, ce sont les tapas. Tapas, ça doit être le mot espagnol pour dire arnaque. Si patatas bravas, si croquetas, t'es ruiné. Mais j'ai pris des tapas au Cap Ferré. 130 euros, tu sors ta faim. Ah, le Cap Ferré. Évitez ces bourrés de parisiens de droite, mais habillés en lin, comme des gauchistes. Techniquement, c'est du transformisme. Ça m'a rappelé Radio France. Alors attention, je ne logeais pas au Cap Ferré même, mais à Klawai, sur le bassin. C'est le village où j'allais en vacances enfant, alors ça n'a pas changé. Rien ne change là-bas. Des pins, des huîtres, des cannelés, le week-end, des bordelais. Clientèle à 98% caucasienne. Hein. En tout, j'ai vu deux noirs. On serait cru à une université d'été du Nouveau Front Populaire. Hein, sont des blancs qui parlent vivre ensemble, comme ici, quoi. Et alors, figurez-vous que j'étais en camping, en bungalow, trois chambres. Ok, mais en camping, pourquoi? Parce que j'attendais la venue de Patrick Sébastien dans le cadre de son tour Tour. Eh ben raté, il a zappé le bassin d'Arcachon. J'étais à bloc, j'avais révisé les paroles de la caquette à Raoul. J'avais dit à mon fils, si Patrick Sébastien vient, il faudrait que je te briefe avant que tu vois telle ou telle campeuse se précipiter sur son bas-ventre. Bon, il m'avait répondu, papa, l'an prochain, franchement, prends une villa, hein, parce que mon fils est incapable de saisir l'essence profonde de ce pays. Hein, qui a trois axes, quéquette, gnôle, antisémitisme. Bon, ça, c'est nous. Puis, je suis aussi allé à Aix-en-Provence. Alors, c'est comme Marseille, mais avec des riches. Un peu chaud, 40 degrés en journée. En sueur par jour, je perdais l'équivalent en liquide de 4 packs de cristalline. Je suis même entré chez H&M uniquement pour prendre un coup de clim. J'ai acheté les premiers trucs que j'ai vus, un crop top et deux strings. Parce que je me disais, si Patrick Sébastien, qui n'était pas au Cap Ferret, déboule à Aix et qui me fait signe de monter sur scène, il faut que j'ai le costume adapté. Hein, sinon, ça revient à aller à la fête de l'Huma sans kéfier. Je vais être d'accord avec la proposition. Superbe. À Aix, j'ai fait l'expo Cézanne au musée Granet. Les musées sont des bunkers maintenant. Hein. Franchement, fouilles corporelles, portiques, ton sac passe au rayon X. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais des strings dans mon tote bag, mais aller expliquer l'existence de Patrick Sébastien à des férus d'art. Ensuite, ils m'ont confisqué mon eau, ma bouteille d'eau. Des fois que je me mettais à arroser un Cézanne en hurlant que la planète allait crever parce qu'il y a quatre fans de Philippe Etchebest qui un jour ont jeté de la sauce au pesto sur des Van Gogh. Alors j'ai demandé le prix d'un Cézanne, on me l'a dit. À côté, j'ai trouvé la calzone abordable. Voilà. Donc j'espère que tout le monde a passé un bel été. Tout le monde, sauf les deux ordures qui ont humilié et torturé ce streamer. Hein, vous avez vu, Jean Portmanov, que j'ai découvert à l'occasion de son décès. Voilà, on dit il est jamais trop tard. Eh ben parfois, si. Je savais que le public adore voir des gens se faire humilier. Hein. Je suis pas candide. Moi aussi, j'ai suivi Nelson Montfort sur Danse avec les Stars. Mais là, que des milliers d'internautes regardent en live un pauvre type se faire taper dessus, ça m'a révulsé. Avec l'Arcom, là, qui dit on peut rien faire. Si kick la plateforme, ça a appartenu à Bolloré, dans le quart d'heure, retrouver du poil de la bête, ces gens foutent, ils ferment tout. Quelle tristesse. Pour moi, ça a sonné la fin de l'été. Franchement, j'étais bien, au bord de la mer, à regarder au loin si Patrick Sébastien arrivait pas par bateau. Et l'histoire de ce monsieur m'a rappelé la réalité de ce que nous sommes. Pas tous, mais certains. C'est pas surprenant pour les exécutions capitales en public. Là aussi, on refusait du monde, mais en fait, c'est juste triste. Voilà, nos clics et nos j'aime ont un poids, donc donnons-le à des streamers vertueux. Voilà, bonne rentrée l'équipe. Il reste 279 émissions, donc allez, je crois qu'on peut le dire, on tient le bon bout.
Tanguy Pastureau maltraite l'info tous les jours à 12h10 dans la bande originale. Nagui et Leïla Kaddour sont là dès 11h avec toute leur équipe d'humoristes chroniqueurs. Et leurs invités aujourd'hui, l'actrice Lucie Zhang et Sofiane Zermani, c'est le rappeur Fianso. Il est aussi acteur et tous les deux sont à l'affiche du thriller Le Roi Soleil au cinéma à partir d'aujourd'hui.
I have a dream.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Le fil de l'histoire.
France Inter, 14h, Stéphanie Duncan.
Tous les jours, par la magie du récit, je vous propose une plongée dans l'histoire. Et en compagnie d'un historien ou d'une historienne, nous essaierons, au-delà des certitudes, de mieux comprendre les événements du passé.
Le fil de l'histoire.
C'est tous les jours à 14h sur France Inter.
Quoi de neuf dans les rayons bande dessinée en cette rentrée? Laetitia Gaillet va nous le dire. Elle nous rejoint dans la prochaine demi-heure, tout comme Marion Guilbeault, notre spécialiste musique, qui a choisi de nous faire écouter une jeune star britannique, Lola Young, au succès fulgurant. France Inter, 5h30. Un nouveau journal signé Victor Costa-Mounier. Des dizaines de milliers de manifestants hier soir à Tel Aviv.
Ils étaient 350 000 selon les organisateurs, 3% de la population israélienne. Des manifestants venus soutenir les familles des 50 derniers otages à Gaza et réclamer un accord. Le Hamas a récemment dit oui pour une libération des otages en deux temps et un cessez-le-feu de 60 jours. Mais le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne veut rien entendre. Les familles des otages désemparées envisagent désormais d'autres moyens de contestation. Thibault Lefebvre les a rencontrés.
Les manifestants continuent à crier et à exiger à l'unisson la libération des 50 derniers otages. Mais rien ne bouge. Rubichen est le père d'Itaï, un jeune soldat sans doute mort en détention à Gaza.
On doit peut-être s'inspirer des Français. Quand vous manifestez, vous avez des camions qui bloquent les autoroutes. Vous avez aussi de bons syndicats qui savent comment se battre.
La grève illimitée, le blocage des routes, beaucoup de manifestants voulaient hier soir durcir le mouvement. Adi est une amie proche de Gali et de Ziv Berman, deux jumeaux enlevés dans le kibbutz de Kfar Aza le 7 octobre 2023 et toujours prisonnier du Hamas.
Le cri de tout le monde ici, c'est ramener les otages.
Vous avez beau crier,
ça marche pas. Oui, je sais, ça marche pas. Nous devons faire quelque chose qui est plus radical.
Vous pensez à quoi?
Nous devons être à chaque endroit que le Premier ministre est là.
Harceler le Premier ministre.
Ouais.
Un Premier ministre qui a réuni hier son cabinet de sécurité sans prendre de décision. Le gouvernement est une nouvelle fois convoqué dimanche pour officiellement autoriser l'offensive sur la ville de Gaza et son million d'habitants.
Thibault Lefèvre à Tel Aviv pour France Inter. Sur la situation à Gaza, Donald Trump doit lui présider une réunion aujourd'hui à la Maison Blanche. Selon son émissaire Steve Witkoff, l'administration Trump doit élaborer un plan très complet sur le jour d'après dans le territoire palestinien. Déjà assigné à résidence et sous bracelet électronique, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro doit être placé sous surveillance policière à temps plein. Ordre d'un juge de la Cour suprême du Brésil ce mardi, en charge du procès de Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'État. Procès dont la phase finale doit se tenir à partir du 2 septembre prochain.
En France, sur la sellette politiquement, François Bayrou cherche du soutien côté syndical.
Après son annonce lundi de se soumettre à un vote de confiance de l'Assemblée le 8 septembre prochain, le Premier ministre a tenté quelques timides ouvertures devant les militants de la CFDT, réunis pour leur université d'été dans l'Essonne. Le chef du gouvernement tend la main aux syndicats réformistes, qui jusque-là a souvent accepté de négocier, notamment lors du conclave des retraites. Mais cette fois, même avec la CFDT, ça ne prend plus, comme vous l'avez constaté, Alexis Morel.
Efforts spécifiques demandés aux plus hauts revenus, suppression des niches fiscales injustes, le Premier ministre multiplie les clins d'œil. Mais pour Stéphanie Chrétien, de la CFDT agroalimentaire, la ficelle est un peu trop grosse.
Je pense qu'il avait bien rodé son discours et qu'il est venu pour essayer de brosser la CFDT dans le sens du poil. Il avait bien lu notre programme pour savoir sur quel point il pouvait venir nous voir. Mais on n'a pas de fonds, on n'a pas de solution concrète.
Et quand le chef du gouvernement dit vouloir redonner plus de pouvoir aux partenaires sociaux, par exemple la gestion de l'assurance vieillesse. Réaction circonspecte de Jean-Luc, militant normand.
Je rappelle quand même que depuis que Macron est arrivé, il nous a ignorés. Rappelez-vous de son début de mandat, les syndicats n'existaient plus. Donc aujourd'hui qu'on est dans la difficulté, on nous dit qu'il faudrait que les partenaires sociaux contribuent au redressement de la France.
Bah oui.
Mais pas à n'importe quel prix.
Alors cette fois, ne comptez pas sur la CFDT. Elle ne participera pas à la négociation sur les jours fériés, car la confiance est rompue, selon Sylvie Luel-Loco de la Fédération de l'enseignement privé.
Pourquoi le croire maintenant ? On s'est fait avoir à chaque fois, donc du coup, je ne sais même pas si lui, il y croit d'ailleurs. Il croit qu'il y a encore 13 jours pour négocier et pour essayer de nous ramener à quelque chose. Non, c'est trop tard.
Et la CFDT proposera d'ailleurs, lors de l'intersyndicale de vendredi, une date de mobilisation dès septembre.
Alexis Morel, service économie et sociale de France Inter. Un loup qui avait attaqué à trois reprises un troupeau de moutons dans l'Aveyron a été abattu dans la nuit de lundi à mardi par des agents de l'État. Lors d'attaques survenues en août, 17 brebis avaient été tuées ou grièvement blessées. Pour rappel, depuis le mois de juin, un arrêté autorise également les éleveurs de bovins et de chevaux à tirer sur des loups pour protéger leurs troupeaux, même lorsqu'il n'a pas encore été attaqué. En football, l'équipe de France masculine doit affronter l'Ukraine vendredi et l'Islande mardi prochain. Match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et le sélectionneur Didier Deschamps doit dévoiler la liste des joueurs retenus tout à l'heure à 14h.
C'était le journal de Victor Costa-Mounier. La météo de ce mercredi 27 août. Attention aux orages, il va y avoir plusieurs zones de turbulence. Là où ce sera le plus costaud, c'est entre les Pyrénées et le centre-est. D'ailleurs, une vigilance orange est en cours de l'Auvergne au Jura. Ces orages seront très forts cet après-midi, très pluvieux avec de la grêle et du vent. Près de la Méditerranée, des averses ce matin, une pause cet après-midi et des averses orageuses dans la soirée. Enfin, dans la partie nord-nord-ouest, c'est cet après-midi que le temps va se dégrader par la Bretagne. Les températures au réveil sont comprises entre 12 et 22 degrés du nord au sud. Pour cet après-midi, comptez de 20 à 26 degrés, un peu plus sur le flanc est. Il est 5h35, l'invité déjà debout attend notre coup de fil. Il vit sur un catamaran au large du Lavandou. On l'appelle dans 10 minutes. Et puis dans la chronique Bulle de BD, un album qui devrait plaire justement, qui devrait intéresser notre invité. C'est une histoire de la mer à travers les siècles et même les millénaires. Ça parle d'épopée, de légende et d'aventure.
France Inter. Le 5-7.
À cette heure-ci, c'est Madame Musique du 5-7 qui nous rejoint. Bonjour Marion Guilbeault.
Bonjour Mathilde.
Lola Young, la nouvelle star de la pop britannique, est toujours en playlist sur France Inter. Et on ne s'en lasse pas.
ne s'en lasse pas de cette voix rocailleuse, une voix qui part direct des tripes, une voix éminemment reconnaissable, c'est celle de Lola Young sur One Thing. Lola Young qui trône en haut de l'Olympe de la pop depuis son méga tube Messi en 2024. L'histoire d'une fille en vrac qui envoie balader son ex avec ses fossiles, ses ongles de 15 km de long, ses taches de rousseur, ses looks improbables, ses chansons libératrices et irrésistibles. Lola Young est bien partie pour marquer durablement son époque, et ce n'est pas Elton John qui dira le contraire, c'est un des nombreux fans de la jeune londonienne. Et son groove synthétique pour mettre le feu dans les playlists en attendant le prochain album de Lola Young. Son titre, I'm Only Fucking Myself. Je vous laisse traduire, Mathilde.
Oh, le piège. Je me fais du mal qu'à moi-même, ou je ne fais que me faire du mal, hein. Enfin, un truc comme ça.
Voilà, c'est une véritable ode à l'auto-sabotage, et ce sera le fil rouge de ce disque très attendu. Lola Young y clash la masculinité toxique, encourage les copines à faire ce que bon leur semble, avoue, cache ses envies et crache ses malaises en bonne petite sœur de Lily Allen et d'Amy Winehouse. C'est à écouter comme les confessions d'une gouailleuse de 24 ans, pas dupe de sa célébrité. En 3 ans, elle a publié 3 longs formats, sans paraître du tout essoufflée. Ça tombe bien, le monde entier semble vouloir encore toujours plus de Lola Young.
One, two, one, two, three.
En playlist sur France Inter avec Not Like That Anymore. Et l'album qui va avec, il est pour bientôt, Marion ?
Il est pour très bientôt. On rappelle le titre, I'm Only Fucking Myself. Et ce sera pour le 19 septembre.
À demain, Marion Guilbeault.
À demain.
Il est 5h41, les municipales, dans 7 mois, c'est la prochaine échéance électorale et ça va aller vite. Les candidats se préparent à entrer en campagne, un scrutin que nous allons vous faire vivre sur France Inter. Et nous commençons par une semaine spéciale de grands reportages au plus près des élus. Ce matin, direction les Alpes-Maritimes, Mandelieu-la-Napoule. Son maire LR, Sébastien Leroy, se bat contre les normes qu'il juge kafkaïennes, Maxence Lambrec.
Sur son bureau, des tas de dossiers, de parapheurs noirs et roses, et derrière, une photo panoramique de sa ville.
Là, vous aviez en 2015 2 mètres d'eau.
Plusieurs inondations ont meurtri sa commune.
Ici, dans les années 70, c'est l'État qui a donné le permis. Ils ont fermé l'hippodrome, ils ont creusé une marina, ils ont créé ces immeubles. On est passé d'un Far West où il n'y avait aucune norme et où l'État autorisait n'importe quoi à une bureaucratie soviétique où il n'y a que des normes et on n'autorise plus rien.
Il nous conduit au bord du Rioux de l'Argentière, qu'on peut en ce moment enjamber à pied.
Bonjour.
Là, un riverain l'interpelle.
Je suis arrivé là il y a un mois, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis dans la région. Quand on voit ça et qu'on voit que le Rioux n'est pas entretenu, on se dit merde, moi j'habite là, je vais me retrouver comme en 2015 avec 1m80 d'eau. Je fais quoi? Je mets mon canoë sur la terrasse ou...
On ne peut pas faire de travaux autres que de l'entretien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller agrandir le cours d'eau parce qu'il faut des autorisations spécifiques, valider dans le cadre d'un projet d'aménagement hydraulique. Et pour avoir ça, c'est 10, 15, 20 ans.
Les berges restent donc telles quelles. À une demi-heure d'ici, en amont, au bord de l'autoroute, la ville veut depuis 10 ans construire un barrage de 11 mètres de haut pour retenir dans un champ, en cas de crue, l'équivalent de 150 piscines olympiques.
Dans la doctrine de l'État, à partir du moment où ce champ peut être inondé une fois tous les 10 ans, il n'est plus un champ. Donc les chevaux qui vont dessus, même si demain ils sont toujours dessus, officiellement ils ne sont plus dessus.
Il faut donc leur trouver un autre terrain aussi vaste, car tout a été calculé.
4 sabots par cheval, donc 100 chevaux ça fait 400 sabots. La fréquence de piétinement d'un mètre carré d'air par 400 sabots, ça fait une fréquence qui est destructeur de la nature, donc vous ne pouvez pas faire le projet.
Il a finalement obtenu une dérogation, mais l'enquête publique ne fait que commencer. Un autre chantier, lui, ne verra jamais le jour, et pour cause.
On est en train d'essayer de me dire qu'il faut que je construise un nouvel immeuble dans le quartier, à 50 mètres de celui où il y a eu 8 morts.
Pour respecter la loi SRU, il devrait construire près de 6000 logements sociaux. Il nous montre l'ampleur du casse-tête.
Alors, vous avez une carte ici qui représente l'intégralité de la commune. Comme vous pouvez le voir, l'intégralité de la carte est rouge parce que vous avez les plans de prévention des risques inondations, le plan de prévention des risques incendies. Nous avons plusieurs milliers d'hectares de forêt, donc là, c'est de la zone rouge inconstructible.
L'an dernier, la ville a reçu 2 millions d'euros d'amende pour non-respect de la loi SRU. Pour son opposant aux dernières municipales, Jean-Valéry Desens, les normes ont bon dos dans cette ville de droite.
En fait, l'idée de dire qu'on ne peut pas faire de logements sociaux à Mandelieu, ça sous-entend qu'on ne peut pas faire de logements pour les immigrés, et donc c'est très porteur dans une communication politique.
Et en lien avec ces enjeux d'urbanisme, ça va souvent de pair, il y a la préoccupation environnementale.
Oui, le maire de Mandelieu nous emmène le long d'un golfe.
On a fait en sorte que l'intégralité de ce golfe de 18 trous soit arrosée avec de l'eau recyclée traitée. Le trottoir qui est de ce côté de la clôture est nettoyé avec de l'eau recyclée traitée. Et l'État nous impose cette bâche hideuse qui a coûté une fortune, qui empêche le citoyen de voir le golfe pour que les gouttes d'eau du golfe n'aillent pas sur le trottoir.
Qui est pourtant nettoyé avec la même eau. La bâche verte fait 400 mètres de long. Sébastien Leroy continue sa liste d'anecdotes.
On vient de récupérer un terrain, on le débroussaille. On a une voiture d'un organisme de l'État de protection de la biodiversité qui s'est arrêtée et qui est descendue pour nous ordonner de cesser les travaux pour respect de la biodiversité. Donc on avait d'un côté l'injonction de débroussaillement pour la prévention des risques incendies, et de l'autre côté l'injonction de ne pas débroussailler pour préserver les espaces protégés.
Le coût des normes, c'est en 2 ans 4 milliards de plus à la charge des collectivités, estime le président du Sénat, Gérard Larcher, et il n'y aura pas de grand soir, prévient Gilles Carrez, le président du Conseil national d'évaluation des normes. Et oui, il existe.
Maxence Lambrec pour ce grand reportage à Mandelieu-la-Napoule. La suite de cette série, à 7h15, nous serons avec la maire écologiste de Besançon.
France Inter. Mathilde Munoz, le 5-7.
Il est 6h moins le quart, on quitte la terre ferme pour rejoindre l'invité déjà debout qui vit sur un bateau en Méditerranée. Bonjour Philippe Magliulo.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes navigateur, moniteur de voile à l'école Three Sailing School. Où êtes-vous exactement ce matin ?
Alors ce matin, j'ai fait un mouillage au pied du fort de Brégançon.
Le fort du président
que... Voilà, le fort du président. Je ne sais pas si, s'il y est actuellement, mais je suis au pied du fort parce que ils annoncent un coup de vent et je me suis mis à l'abri du coup de vent qui est prévu dans la journée.
Et est-ce que vous attendez le lever du soleil, là?
Exactement. Je me lève régulièrement, quasi tous les jours, pour profiter du lever du soleil. Et d'ailleurs, je me suis un peu isolé parce que les stagiaires ne vont pas tarder à se lever pour aussi profiter du spectacle.
Ah, vous n'êtes pas tout seul sur le bateau ?
Non, je ne suis pas tout seul.
Alors, il y a qui avec vous ?
J'ai un groupe d'Italiens qui dort pour l'instant, parce qu'ils se sont couchés un peu tard. Et donc, ils ne vont pas tarder à se lever pour profiter du lever de soleil au-dessus du fort. Voilà. Il ne sera pas sur la mer, mais il sera au-dessus du fort.
Ce sont des stagiaires à qui vous donnez des cours de voile, c'est ça ?
Exactement. Ils viennent et ils souhaitent se former, se perfectionner ou découvrir la voile en croisière.
Mais ce bateau, c'est le vôtre ? Vous vivez dans ce bateau ?
Non. Voilà, je vis sur le bateau depuis bientôt 2 ans maintenant.
D'accord.
Non, ce n'est pas le mien.
Mais c'est votre maison quand même.
Exactement, c'est ma maison. J'habite dessus.
Et vous dormez bien sur ce bateau ?
Absolument, oui. Je dors dans le carré avec une vue à 360 degrés sur la mer. Et donc, je me réveille tous les jours avec le spectacle du soleil qui se lève.
La vue est belle.
Et toujours dans des endroits différents.
Ah oui, donc, j'imagine. La vue est belle. Est-ce que le lit est confortable ?
Absolument. Ouais. Il est très confortable. Oui. Oui, j'ai la chance d'avoir un bel outil de travail. Donc, ça permet de dormir confortablement.
Bon, mais tant mieux. Alors, tout ça, c'est une nouvelle vie pour vous, Philippe Magli-Hulot. Parce qu'avant, vous avez été ingénieur chez Orange pendant 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce changement de vie ?
Un changement de vie, parce que j'avais une certaine lassitude du travail. Mm-hmm. Au bout de 25 ans, on a fait un peu le tour de la question, même si le travail était très intéressant. Et donc, un petit changement de vie personnel aussi. Et donc, j'ai choisi de faire une reconversion dans le nautisme, parce que j'ai découvert la voile assez tard, à 40 ans.
Oui.
Et c'est devenu une passion. J'ai fait des courses au large en classe 40, qui est une classe de monocoque, avec le propriétaire du bateau, donc c'est vraiment du bateau actuel sur lequel je suis. Et donc, ça m'a permis de découvrir la course au large. Et donc, naturellement, je me suis orienté vers une filière nautique et j'ai passé le monitorat de voile afin d'en faire ma profession actuelle.
C'est un sacré changement quand même, il n'y a rien à voir avec votre métier d'avant, ça semble vertigineux comme ça vu de loin, vous n'avez pas eu peur ?
J'ai pas eu peur. J'ai été d'ailleurs Orange m'a aidé aussi dans la démarche, que ce soit au niveau de la formation et aussi pour créer mon entreprise. Donc c'est vrai que j'ai été bien épaulé de leur part.
Et alors aucun problème avec vos nouvelles conditions de vie, parce que vivre sur un bateau c'est quand même pas forcément simple, c'est souvent minimaliste.
Absolument, c'est assez minimaliste. C'est vrai qu'on est dans une démarche assez spartiate. Donc au niveau écologie, c'est vrai que on est très peu consommateur, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité, etc. On est en quasi-autonomie. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc je fais la saison d'été en Méditerranée et après je vais faire la saison d'hiver aux Antilles. Mm-hmm. Et donc on a fait à peu près 25 000 km avec, je dirais, 100 litres de carburant à peu près sur toute la saison. Donc voilà.
Et quand vous partez, de l'autre côté, donc vers les Antilles, vous partez avec votre bateau ?
Oui, absolument. On traverse l'Atlantique avec le bateau.
Donc,
il faut à peu près un mois de mer pour relier la Méditerranée jusqu'en Guadeloupe en général, en passant par les Canaries, le Cap-Vert et puis après la traversée de l'Atlantique.
Et la Guadeloupe, c'est des vacances pour vous ou vous travaillez là-bas ?
Ah non, ce ne sont pas des vacances, je travaille et puis on participe aussi à des courses, mm-hmm. des courses avec des stagiaires, donc on a eu l'occasion de faire la Caribbean 600 qui est une course de 600 milles qui correspond à peu près à 1000 km autour des îles antillaises et là, au mois d'octobre, nous allons participer au Tour de Corse. Voilà,
Philippe Magli-Hulot, on sent que votre nouvelle vie vous convient parfaitement, ça fait plaisir, on entend votre sourire. Merci beaucoup, vous étiez notre invité déjà debout, donc en direct de votre catamaran. Et je m'adresse maintenant aux auditeurs, si vous aussi, chers auditeurs, vous êtes un lefto et que vous souhaitez passer à l'antenne pour qu'on papote un moment ensemble, n'hésitez pas, écrivez-nous le 5-7 à radiofrance.com. Dans 3 minutes, Bulle de BD, ce sont deux légendes de la musique qui vont nous y accompagner, Johnny Cash reprend le méga tube de Neil Young. Voici Heart of Gold sur France Inter.
I wanna live, I These expressions I never give. That keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. The ocean for a heart of gold. I've been in my mind. It's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. That keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old.
Heart of Gold, une chanson de Neil Young sortie en 1972. Et là, c'est la version de Johnny Cash qui date de 2003.
France Inter. Le 5-7.
C'est le retour des bulles de BD, le 9e art. Et dans le 5-7, tous les mercredis. Chouette, 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 Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour Mathilde.
Et pour la rentrée BD, vous nous proposez Le Grand Large avec Histoire de la mer de Mats Jörgmeyer, Olivier Chaline et François Lefebvre.
Elle peut être d'huile, calme. Puis quand les nuages se posent au-dessus d'elle, quand le vent se lève, elle peut onduler, s'assombrir, entrer dans une colère folle, se déchaîner. Qui alors pour l'arrêter ?
J'occupe les deux tiers de la surface de la planète. On l'appelle la Terre. Mais toute vie vient de moi. Sans moi, il n'y aurait rien.
Elle est fière d'avoir porté cette vie. Mais elle dit aussi que...
Les hommes pensent m'avoir conquise. Ils se trompent. Ils ont exploré mes rivages et mes profondeurs, mais imparfaitement.
Elle est restée la patronne, même si leurs histoires sont intimement liées. Elle affirme
qu'il y a de nombreux navigateurs dont la mémoire s'est perdue. Mais moi, évidemment, je m'en souviens.
Elle est la mémoire du monde. Et en même temps, elle n'est pas dupe. Les humains ont soif de ces abysses parce qu'ils regorgent de ressources.
Je suppose que ce n'est qu'une question de temps.
On a réussi à décrypter ses courants, ses vents. On maltraite sa faune, sa flore. Mais la mer garde ses mystères. Moins de 10% des fonds marins ont été explorés. Pourtant, comme les vagues qui s'échouent sur les rivages, elles semblent répéter ce refrain.
Je suppose que ce n'est qu'une question de temps.
Inlassablement.
Ce n'est qu'une question de temps.
Indéfiniment.
Question de temps.
De temps.
De temps.
De temps. Mats donne voix à la mer. Maillet lui donne toutes les formes et toutes les nuances de bleu, du plus clair au plus obscur. Parfois, on la regarde dans le soleil couchant, parfois aussi ses profondeurs sont vertes. Mais le scénariste et le dessinateur n'avancent pas seuls dans cette histoire aux milliards d'années. Ils sont accompagnés de chercheurs parce que la mer n'est pas qu'une étendue d'eau.
D'où le titre de cette BD, Histoire de la mer.
Et on y apprend que la démocratie vient d'elle.
Elle en est l'enfant.
480 avant Jésus-Christ, la guerre en mer entre les Athéniens et les Perses fit des milliers de morts. Après la bataille de Salamine, Athènes modifia son mode de gouvernement. Les rameurs des galères, qui avaient contribué à la victoire, y furent associés. On y apprend que les Vikings furent étroitement liés à l'Amérique du Nord, que toutes les conquêtes passèrent par elles. Les Mongols et le Japon au XIIIe siècle, l'amiral chinois Zheng He alla jusqu'en Afrique au XVe siècle.
Il n'y aura plus de grands voyages comme le mien.
La mère fut de toutes les ambitions. Élisabeth Ier au XVIe siècle.
Puisque la mère n'est à personne, alors elle est à moi.
Plus de 500 ans plus tard, les humains essayent toujours de se partager le monde en traçant des lignes imaginaires. La reine d'Angleterre a raison sur un point. Je ne suis à personne.
Magellan, Christophe Colomb, la traite des négriers, les grands ports comme Saint-Malo, la pêche, la circulation de la monnaie, sans parler des légendes, tout passera par elle. Cette BD est un amoncellement d'histoires connues et moins connues dans lequel on plonge sans mauvais jeu de mots. Les arènes BD se sont fait les spécialistes des incroyables histoires de la littérature, la préhistoire, la médecine, le sexe, la cuisine, le vin, etc. Alors pourquoi pas la mer ? À la différence près qu'ici, la BD n'a pas la même couverture sur fond blanc, ni le même format. C'est un gros livre. Les spécialistes sont toujours présents pour apporter leurs connaissances. Mais ils ont choisi d'y adjoindre un scénario. Narrateur Mats, ce qui sans amoindrir les autres titres donne un relief supplémentaire.
Je suis la matrice.
La mère est un personnage à part entière.
La mère nourricière.
Elle est l'histoire qui a fait les autres grandes histoires.
Je ne suis à personne.
Histoire de la mère de Mats Maillet, Chaline et Lefebvre, c'est donc aux Arènes BD, en collaboration avec Sorbonne Université pour découvrir quelques planches. Comme d'hab, ça se passe à la page Bulle de BD de l'application Radio France. Laetitia, nous on se retrouve dans 20 minutes pour la nouvelle saison de Regarde la France.
À toutes.
Cette semaine, France Inter fait sa rentrée.
Et la matinale s'agrandit.
7h, 11h, Nicolas Demorand, Sonia De Villers.
La grande matinale, c'est 4 heures d'actu, de débat, de culture et d'humour.
À 7h50, l'interview de Benjamin Duhamel, suivi du billet de Bertrand Chameroy.
Et à 9h20, on vous retrouve, Sonia, pour le portrait d'une personne qui fait l'actualité.
À 9h50, Daphné Burki et ses nouvelles têtes.
À 10h, la vie culturelle avec Mathilde Serrel.
Et à 10h30, Ali Rébéi et son Mac de la vie quotidienne.
La grande matinale.
C'est désormais tous les matins, de 7h à 11h, sur France Inter.
5h58.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Quel temps prévoit Météo France, Élodie Calac ?
Un temps perturbé et orageux du sud-ouest aux régions de l'est. C'est toujours instable avec des averses et des orages. Orages parfois forts, surtout cet après-midi, avec des pluies intenses, de la grêle, de fortes rafales de vent jusqu'à 80 à 90 km à l'heure. Une vigilance orange est en cours. Autour de la Méditerranée, des averses circulent ce matin, parfois orageuses vers le Languedoc-Roussillon. Ça va s'éclaircir cet après-midi avant une nouvelle salve orageuse marquée ce soir et cette nuit. Du nord-ouest au nord de la Seine, nuages et éclaircies alternent. Il y a un peu de grisaille en prime ce matin. Et cet après-midi, une nouvelle dégradation pluvio-orageuse va aborder la Bretagne avec du vent. Ce matin, il fait 12 à 17 degrés au nord, 15 à 22 au sud. Cet après-midi, ça va baisser. 20 degrés attendus à Brest, 24 à Alençon, Nantes, Bourges, Bayonne, 26 à Lille, Paris et Montauban, 28 à Strasbourg, 30 degrés encore à Lyon, 31 à Marseille et 34 à Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France. Dans 20 minutes, l'invité du 5-7, c'est Jérôme Fournier du syndicat des enseignants UNSA pour parler des nouveautés de la rentrée scolaire et puis à suivre également le portrait du jour dans Regarde la France. C'est un passionné du bois. Il travaille dans une scierie en Lozère. Bon réveil à tous. Vous écoutez France Inter. Il est 6h. Le journal Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Pas question de renoncer au blocage, même si le gouvernement tombe deux jours avant. Les partisans du mouvement du 10 septembre comptent bien se faire entendre malgré tout et manifester contre la politique globale d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui rentre aujourd'hui du fort de Brégançon pour présider un conseil des ministres. Nous sommes ce matin auprès de soignants à bout de souffle.
France Inter sur le terrain aux urgences d'Agen.
Où les 35 urgentistes sont dépassés depuis le début de l'été. Ils ont accumulé près de 6000 heures supplémentaires. À la une également, Donald Trump présidera une réunion sur l'avenir de Gaza aujourd'hui. Le président américain a des motivations humanitaires, dit son émissaire spécial. Et puis la qualification historique des volleyeuses de l'équipe de France. Elles vont vivre les huitièmes de finale d'un mondial après leur victoire hier face à la Grèce.
France Inter.
C'est peut-être l'avant-dernier conseil des ministres avec ce gouvernement que va présider Emmanuel Macron ce matin. François Bayrou face au vote de confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Tous les groupes d'opposition annoncent qu'ils voteront contre. Le RN, par la voix de Jordan Bardella, demande une nouvelle dissolution ou la démission du chef de l'État Emmanuel Macron, dans le viseur aussi des Français qui comptent se mobiliser le 10 septembre sur les canaux de discussion du mouvement Bloquons tout, Timur Öztürk. Les manifestations sont toujours à l'ordre du jour, même si les jours du gouvernement semblent compter.
Et si le vote de confiance du 8 septembre venait distraire l'attention du 10 septembre, s'inquiète un participant sur un canal de l'application Telegram dédié à la mobilisation. C'est une manœuvre pour étouffer l'appel à tout bloquer, estime même un autre compte. Sur le fond, la plupart des participants jugent qu'un autre gouvernement proposerait sûrement un budget similaire, qu'il faut se mobiliser pour défendre les services publics ou pour réclamer le référendum d'initiative citoyenne, revendication des Gilets jaunes, ou encore exiger l'abrogation de la réforme des retraites. Oui, mais comment mobiliser si Bayrou tombe? Ce n'est quand même pas pareil que s'il reste, s'interroge un participant. Pour répondre à cette question, un nouveau mot d'ordre est avancé. Le 8, on dégage Bayrou. Le 10, on dégage Macron. Slogan notamment partagé par des comptes insoumis et repris par de nombreux profils qui veulent faire du président la cible de leur colère si le Premier ministre tombe deux jours avant leur mobilisation.
Timur Öztürk. Ce contexte social et politique tendu, instable, n'est pas sans conséquence sur l'économie. La Bourse de Paris a de nouveau terminé en forte baisse hier soir. Plus de 3% de perdu en deux jours depuis l'annonce de François Bayrou. Inquiétude des grandes entreprises du CAC 40 donc. Angoisse pour l'ensemble des patrons, surtout ceux des petites et moyennes entreprises. Exemple à Bourrachard, dans l'Eure, où Simon Le Baron a rencontré le dirigeant d'Efibat, une PME spécialisée dans l'isolation thermique des maisons.
Trois petits bâtiments en bordure de la rue principale, Pierre Meyer fait la visite.
Donc là, c'est notre entrepôt où on stocke tous nos isolants et nos enduits. Et puis vous avez vu nos bureaux où il y a tout le staff administratif. On est 15 à 16 employés dans la société.
Lui qui se décrit volontiers comme un petit patron s'est senti un peu sonné en écoutant le Premier ministre.
Je me suis dit, c'est pas vrai, quoi, encore. C'est un peu des claques qu'on se prend et puis à un moment, peut-être que je tomberai à force de me prendre des petits coups de poing les uns après les autres, voyez.
C'est le pire ennemi du chef d'entreprise, l'instabilité, avec des dispositifs qui changent sans cesse.
Par exemple, nous, on travaille avec MaPrimeRénov', sauf que ben voilà, le dispositif, il a 2 ans, il a déjà changé 13 fois. Et là, de nouveau, on ne sait pas où on va.
Des clients qui hésitent à sortir leur argent.
Déjà, ils n'y comprennent plus rien. Ils sont submergés par des incertitudes et en fait, ils remettent à plus tard leur projet.
Un patron qui n'ose pas recruter.
Pour l'instant, on temporise. J'aurais peut-être la possibilité de prendre plus de personnel, mais il est hors de question pour l'instant.
Alors, pas de catastrophe, le carnet de commandes est plein jusqu'en février. Mais avec la présidentielle de 2027 en ligne de mire, Pierre Meyer a du mal à voir quand il pourra à nouveau se projeter un peu plus sereinement.
En reportage, Simon Le Baron, les députés ont 13 jours pour dire s'ils se placent du côté du chaos ou de la responsabilité, a lancé François Bayrou hier à l'université d'été de la CFDT, où il a à nouveau parlé d'un effort spécifique pour les plus hauts revenus, mais sans en dire plus. Le Premier ministre sera l'invité du 20h de TF1 ce soir. Indépendamment de la situation politique du moment, il y a des secteurs qui souffrent au long cours. C'est le cas de l'hôpital public. À l'APHP, les hôpitaux de Paris, un mouvement de grève a commencé lundi pour dénoncer le manque de moyens. Et partout en France, des services sont au bord de la rupture.
France Inter sur le terrain, aux urgences d'Agen.
Oui, où les 35 soignants accumulent des milliers d'heures supplémentaires depuis le début de l'été pour s'occuper d'un bassin de population de plus de 500 000 habitants, ceux du Lot-et-Garonne, mais aussi du Gers voisin, d'où les appels au SAMU arrivent aussi à Agen. Nicolas Piquet était sur place.
Alban entame une garde de 24 heures. Elle a les traits tirés. Pendant tout l'été, le service a été débordé.
On n'arrive plus à faire du bon travail parce qu'il y a trop de gens.
D'autres services d'urgence et de SAMU ont fermé aux alentours, jusque dans le Gers, le département voisin, tout comme des cabinets médicaux et des lits d'hôpitaux. Ça fait donc beaucoup plus de patients à Agen, sans personnel supplémentaire.
Moi, mes enfants, elles m'appellent la maman dragon quand je rentre des urgences, parce que je suis tellement fatiguée. C'est vrai qu'il y a des jours, on se dit, en fait, je pourrais pas supporter plus.
Jean-François Sibien, lui aussi urgentiste dans le service, président de l'intersyndicale Action Praticien Hôpital et vice-président de SAMU Urgence de France.
Sur une période de 8 jours, j'ai travaillé plus de 90 heures avec 3 gardes de 24 heures.
24 heures de garde, c'est les 3-8 dans la même journée.
Comment faire du bon travail dans ces conditions, ajoute-t-il, d'autant que les centaines d'heures de travail additionnelles accumulées lui sont moins bien payées que le salaire d'un médecin débutant. Laurent Maillard est chef du service des urgences d'Agen et du SAMU de Lot-et-Garonne.
Il faut arrêter de croire qu'on est corvéable à merci. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à profiter de notre vie famille, à préserver notre santé plutôt que à parer à tous les dysfonctionnements qui nous entourent.
Après 3 heures de réunion convoquée hier en urgence, Benoît Elbod, directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, avance de premières pistes.
J'ai décidé de financer pendant 6 mois une ligne supplémentaire d'assistantes de régulation médicale et où les jours où la clinique ferme, il y aura un urgentiste de plus à la régulation, une infirmière et une aide-soignante de plus dans le service d'urgence pour faire face à l'augmentation d'activité.
Mais chacun convient que les problèmes de manque de médecins et de moyens sont structurels et nationaux. Une nouvelle réunion est prévue vendredi à Agen. Les urgences restent ouvertes d'ici là.
France Inter sur le terrain à Agen ce matin avec Nicolas Piquet.
Des dossiers français mais aussi internationaux pour Emmanuel Macron.
Qui a répondu hier soir à Benjamin Netanyahou une semaine après la lettre du Premier ministre israélien l'accusant d'alimenter le feu antisémite en France et de ne pas agir assez contre les actes anti-juifs. Des accusations qui offensent la France tout entière, écrit le chef de l'État, estimant que la lutte contre l'antisémitisme, je cite, ne saurait être un sujet d'instrumentalisation. Emmanuel Macron qui évoque également, je cite toujours, la fuite en avant meurtrière et illégale d'une guerre permanente à Gaza qui expose Israël à l'indignité. Quant à Washington, est-ce à nouveau pour discuter d'une bande de Gaza sans les Palestiniens? En tout cas, Donald Trump va présider aujourd'hui une grande réunion. C'est l'expression de son émissaire spécial Steve Witkoff. France Inter à Washington, Sandrine Etohandeg.
C'est sur la chaîne Fox News que Steve Witkoff a annoncé hier cette réunion sous la direction de Donald Trump sur l'avenir du territoire palestinien dévasté par la guerre depuis près de 2 ans.
Nous élaborons un plan très complet sur le jour d'après et je pense que beaucoup de gens vont constater à quel point c'est solide et guidé par de bonnes intentions. Ce plan reflète les motivations humanitaires du président Trump.
L'envoyé spécial n'a donné aucune précision sur les participants à cette réunion. Il ajoute dans cette interview que selon lui, c'est le Hamas qui retarde la fin de la guerre, qu'il y a eu un accord sur la table il y a 1 mois et demi qui aurait permis la libération de 10 otages, mais que le Hamas a ralenti le processus. À la question « Pensez-vous que le Hamas doit être complètement détruit ?» comme le dit Benjamin Netanyahou, Steve Witkoff répond « Ce n'est pas mon avis, je pense qu'il faut un accord qui prévoit la libération des otages avec en contrepartie des prisonniers palestiniens qui pourraient aussi rentrer chez eux. » La libération des otages est un préalable pour le gouvernement israélien et pour le président américain, insiste Steve Witkoff. Il se dit optimiste sur l'avancée des négociations entre les deux parties et déclare « Je pense que nous mettrons fin à la guerre à Gaza avant la fin de l'année ».
Sandrine Etohandeg, une surveillance policière à temps plein. Voilà ce qu'ordonne un juge de la Cour suprême du Brésil ce matin à l'encontre de Jair Bolsonaro. Déjà assigné à résidence sous bracelet électronique, le magistrat argue d'un risque de fuite alors que l'ancien président d'extrême droite va être jugé pour tentative de coup d'État à compter du 2 septembre. Ça s'est enfin bien passé pour Starship. Après 2 reports et une série de tests ratés, la méga-fusée de SpaceX a réussi son 10e vol d'essai cette nuit. Le vaisseau conçu pour aller sur Mars, c'est en tout cas le rêve d'Elon Musk, a réussi à amerrir dans l'océan Indien malgré quelques dégâts matériels. Près de 20 ans que la Norvège attendait ça, voir un de ses clubs de foot en Ligue des Champions, et bien c'est chose faite grâce au Bodø/Glimt, déjà surprenant demi-finaliste de la Ligue Europa la saison dernière. Qualification en barrage hier soir face aux Autrichiens de Graz, une première historique pour ce petit club où évoluent surtout des joueurs locaux et situé au confins de l'Europe, Josué Charlos.
Une petite ville de 50 000 habitants juste au-dessus du cercle polaire. Voilà la drôle d'ambiance que pourraient découvrir dans quelques semaines Monaco, Paris ou Marseille. En attendant, Jorul Carlsen, journaliste pour la télévision nationale, savoure cette qualification 18 ans après la dernière participation d'un club norvégien en Ligue des Champions.
Je parlais la semaine dernière avec la présidente de la Fédération de football norvégienne et on pouvait voir à quel point elle était heureuse après la victoire face à Sturm Graz.
Il y a encore 10 ans, Bodø/Glimt alternait entre la première et la deuxième division. Mais depuis l'arrivée du coach Kjetil Knudsen en 2018, l'équipe n'a cessé de progresser, décrochant 4 des 5 derniers titres de champion de Norvège.
Je pense que l'important est vraiment la stabilité. Par exemple, l'an dernier, Tottenham a gagné la Ligue Europa et ils ont viré leur coach. Cela n'arrivera jamais à Bodø.
L'ancrage local est fort, l'effectif est composé aux trois quarts de joueurs norvégiens, mais l'une des forces de cette équipe de Bodø est aussi son terrain, pas de pelouse en herbe mais un synthétique qui déstabilise toujours les équipes européennes.
On voit les équipes adverses, elles sont presque choquées quand elles jouent sur cette pelouse, car cela va tellement vite.
Les joueurs norvégiens connaîtront leurs adversaires demain, lors du tirage au sort à Monaco.
Et la première journée de cette Ligue des Champions, ce sera le 16 septembre.
Kevin Dufraîche pour le journal du sport encore, la presse et un portrait. Voilà la suite du 5-7 avec un trio que je salue. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
La presse, c'est pour vous Nora Hammadi. Qu'est-ce qui retient votre attention ce matin?
La rentrée littéraire, qu'est-ce qui vous fait acheter un livre, chère Mathilde?
La couverture.
Voilà, la quatrième.
Ah, la quatrième. Non, moi, la couverture, la vraie.
La quatrième de couverture.
Vous, c'est la dernière. D'accord. Le portrait, c'est Regarde la France avec vous, Laetitia Gaillet.
C'est l'histoire d'une scierie reprise par ses salariés au Blémard en Lozère. Romain est l'un d'entre eux. Romain ou l'amour du bois, chez lui, dans son village.
Et donc maintenant, les sports avec vous, Cédric Guillou, Esprit Sport. La photo du jour, elle est pour l'équipe de France féminine de volleyball.
Bah oui, parce qu'on connaît les doubles champions olympiques hommes de volleyball, Erwin Gapet, Genia Grebennikov et les autres. Mais il y a aussi, Mathilde, une équipe féminine française de volley qui est en train de prendre son envol, qui est qualifiée depuis hier pour les huitièmes de finale du championnat du monde qui se déroule en Thaïlande. Alors, participer à ce mondial, c'était déjà un petit événement en soi, puisque les Françaises attendaient de disputer un championnat du monde depuis 1974, depuis 51 ans. Elles vont jouer leur huitième de finale dimanche. Alors, ce sera soit contre la Chine, soit contre la République dominicaine. Deux nations qui s'affrontent aujourd'hui.
On change de compétition avec notre série de la semaine consacrée au badminton.
À l'occasion des mondiaux qui se tiennent en ce moment à Paris, nous sommes toujours en compagnie du Badminton Club Chambly-Oise, le club le plus titré en France de ces 10 dernières années. Et si Chambly est arrivé à ce niveau, eh bien c'est parce qu'on s'est structuré avec notamment des entraîneurs à temps plein. Parmi eux, Adrien Picard-Doudeau, il a 32 ans et il va entamer sa deuxième saison au club en tant qu'entraîneur salarié.
J'ai encadré depuis mes 18 ans, mais bénévolement d'abord, et donc en parallèle de mes études, qui m'ont conduit à être professeur de physique-chimie. J'avais pas conscience du monde professionnel dans le badminton. Effectivement, pour les profs de tennis, on en voit beaucoup, mais moi, j'avais pas de contact avec de gens qui vivaient du badminton, donc je me suis pas dit à ce moment-là que c'était possible. Et quelques années plus tard, j'ai pu rencontrer quelques entraîneurs et discuter avec eux, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, on peut essayer. Les avantages d'être entraîneur à Chambly, on peut le voir là où on est, c'est, je pense, la meilleure salle de badminton de France. On a la chance de travailler dans un cadre exceptionnel. C'est vrai que d'avoir une salle dédiée au badminton, c'est beaucoup d'avantages. Dans mon club précédent, on devait changer de gymnase, par exemple, des fois entre des créneaux. On devait partager la salle avec d'autres associations. Il y avait des changements d'une salle à l'autre, donc tout le temps monter, démonter les terrains. Ici, les terrains restent en place tout le temps, donc ça nous fait gagner du temps dans notre travail, du confort pour les joueurs et pour les encadrants. C'est une vraie chance, quoi.
Et demain, nouvel épisode avec la chargée de communication du club.
Eh bien, à demain, Cédric Guillou pour un autre Esprit Sport.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
La France est-elle devenue le nouvel Eldorado des narcotrafiquants? Le nouveau Pablo Escobar sera-t-il Limougeau? Dijon est-il le nouveau Tijuana? Ce mercredi, zoom sur la mexicanisation de la société française.
Zoom Zoom Zen, à 16h, un mot du moment, et à 17h, toute l'actu du jour avec humour.
Les apprentis sont tous différents. Ils ont 19, 22 ou 26 ans. Ils sont polyvalents, créatifs et persévérants. Ils sont en CAP, ont le bac ou sont en dernière année master. Ils veulent travailler dans le numérique, le BTP ou l'industrie. Et sont des milliers à être encore à la recherche d'un contrat d'apprentissage.
Recruteur, RH, chef d'entreprise, le plus dur, ce sera de choisir. Recrutez votre future pépite sur unjeuneunesolution.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Crédit Agricole présente, les amis c'est bien, une assurance c'est mieux.
Allô Fatia, tu sais pas la nouvelle ? Chris a eu un coup de foudre.
Un coup de foudre ? Mais super !
Bah non, il a tout fait péter chez elle.
Hein ? Alors là, vous portez plainte.
Mais non, c'est l'orage qui est tombé sur le toit de sa maison. Bref, je vais la loger, mais tu pourrais pas prendre le relais.
Avec le Crédit Agricole, vous êtes relogé jusqu'à 24 mois en cas de sinistre rendant votre logement inhabitable. Et 2 mois remboursés jusqu'au 12 octobre 2025. Contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par les caisses régionales de Crédit Agricole, courtier en assurance. Voir conditions au contrat en agence.
6h15.
France Inter. Le 5-7.
Dans l'œil de Nora Amadi. Nora, que retenez-vous dans la presse ce matin ?
Alors Mathilde, vous vous en doutez, les journaux du jour reviennent largement, continuent de tirer le fil de la déflagration François Bayrou. Quelle suite, se demande la Marseillaise, les scénarios de l'après Bayrou pour la Dépêche, les clés pour comprendre la crise politique, nous dit l'Union. La quête difficile d'une...